Souvenirs de deux marins par Monsieur Le Saint. Chapitre 1er. Brest, le Conquet. La Bretagne est peut-être la seule de nos provinces qui ait conservé sans altération sensible les croyances, les mœurs, la langue, les coutumes des temps passés. Elle mérite à cet égard de fixer l'attention des touristes qui s'y donnent chaque année rendez-vous pour en étudier les sites pittoresques. Le Finistère est comme un résumé complet de cette antique province. Aussi attire-t-il particulièrement les étrangers par la fertilité de ses plaines, comme par l'aridité de ses montagnes, par la grâce, comme par la rudesse de ses paysages, par la variété de ses monuments, de ses types, de ses usages et de ses coutumes. On comprend que des artistes et beaucoup de ceux qui aiment à visiter les contrées, dont l'aspect offre encore quelque chose de primitif, se rendent l'été dans cette partie de la France et en parcourent les côtes tourmentées par les flots. Il y a là, pour le peintre, des points de vue charmants. Le poète y trouve des solitudes et des horizons comme il en a rêvé. L'homme, que des travaux sérieux ont retenu de longs mois dans son cabinet, y respire un air pur qui ranime ses forces épuisées par l'éveil et la méditation. Vers la fin du mois d'août 1863, monsieur et madame de Kerdoret arrivèrent à Brest avec leur fils Ludovic et leur neveu Horace de Clomadoc, l'un et l'autre âgés d'environ 12 ans. Les deux amis venaient d'obtenir de nombreuses couronnes et une excursion en Bretagne était la récompense de leur succès. À peine installés à l'hôtel de Provence, les voyageurs voulurent voir ce que la ville offre de remarquable. Ils visitèrent successivement l'église Saint-Louis, la préfecture maritime, le jardin d'acclimatation, où ils admirèrent une très riche collection de coquillages et de plantes exotiques. Ils parcoururent ensuite le port, l'un des plus beaux de l'Europe, l'hôpital maritime, qui doit son nom à Monsieur le duc de Clermont-Tonnerre. L'ancien bagne, la corderie, les forges excitèrent vivement leur intérêt. Comme tous ceux qui n'ont aucune idée d'un arsenal, ils considéraient d'un œil étonné les masses de canons et de boulets qui couvrent surtout les quais. Le château les intéressa aussi beaucoup. Construit sur un rocher, à l'entrée du port et de la rade, il est encore un type remarquable de l'architecture militaire du Moyen-Âge, malgré les changements qu'il a subis, surtout depuis que Vauban fit raser les toits coniques du donjon et des tours et y pratiqua des plateformes pour y mettre de l'artillerie. Il a remplacé, au XIIIe siècle, un castellum bâti vraisemblablement sous les Romains. Pour aller de Brest à Recouvrance, petite ville située de l'autre côté du port, les deux jeunes collégiens passèrent sur le pont tournant, travail unique en son genre, et qui réunit, malgré ses proportions colossales, le triple mérite de la solidité, de la légèreté et de l'élégance. Ce pont se compose de deux volées tournantes qui se rejoignent au milieu du bassin et dont le poids, pour chacune, atteint le chiffre énorme de 750 000 kg. La construction de cette œuvre audacieuse, qui a pour auteur l'ingénieur Oudry, a coûté 3 millions de francs. En rentrant en ville, ils remarquèrent la promenade du cours d'Ajo, créée sur les remparts et plantée en 1869 par M. d'Ajo, officier du génie. Cette promenade, longue de 600 mètres, domine la rade dans son immensité. De là, le regard embrasse un panorama charmant. En face est la presqu'île de Crozon, avec ses grottes sans cesse battues par les vagues, refuge d'un millier d'oiseaux. À droite, près du Goulet, s'élève le phare de Porzic, dont les feux le soir projettent au loin une vive lumière. À gauche se dessinent les coteaux qui terminent la chaîne des montagnes noires. Tel est l'attrait que présente cette vaste nappe d'eau, tantôt calme, tantôt soulevée, avec les nombreux navires qui la sillonnent en tous sens, qu'on désire tous les jours jouir de sa vue. Le paysage change d'aspect de minute en minute, et chaque fois qu'on revient, on saisit des détails qu'on n'avait point aperçus la veille. Monsieur et Madame de Kerdoret ne furent pas moins émerveillés que les enfants de ce spectacle grandiose, et, pendant les 4 jours qu'ils demeurèrent à Brest, ils conduisirent bien souvent au cours d'Ajo Ludovic et Horace, qui auraient donné beaucoup pour posséder une maison sur la plage, au pied des remparts. Monsieur de Kerdoret était heureux de la joie de son fils et de son neveu. Persuadé qu'une promenade en mer serait tout à fait de leur goût, il les mena un matin sur le quai et loua un bateau. Les deux enfants s'élancèrent légèrement dans la barque et, un instant après, ils passèrent sous les canons du château qui commande l'entrée du port. La brise soufflait de terre. Le bateau arriva, au bout de quelques minutes, près d'un vaisseau mouillé à une demi-lieue de la côte. « Mon père, » demanda Ludovic, « quel est donc ce grand navire où nous voyons une foule de jeunes gens tous vêtus de toile ? Il y en a parmi eux qui paraissent extrêmement jeunes. » « Mon ami, » répondit Monsieur de Kerdoret, « c'est le vaisseau école. Tu sais que les élèves qui se destinent à la marine passent, après leurs examens, 2 années à l'école d'application. C'est sur ce vaisseau qu'ils apprennent tout ce qui concerne leur carrière. Ils sont nommés, en sortant, aspirants de seconde classe et attachés à l'un de nos 5 ports de guerre, d'où ils ne tardent pas à partir pour un voyage ordinairement très long. Le Borda est la pépinière où se recrutent ces vaillants et habiles officiers, dont beaucoup ont su, en maintes circonstances, illustrer et faire respecter notre pavillon. Plusieurs des jeunes gens que tu vois auront eux-mêmes un jour un nom glorieux, grâce à l'intelligence et au travail qui leur ont valu d'être admis au vaisseau. Car tu n'ignores pas que si 1800 candidats environ se présentent annuellement pour subir les épreuves, 40 ou 50, en temps ordinaire, ont le bonheur d'être reçus. Durant ce dialogue, le bateau, poussé par un vent rapide, s'était éloigné du Borda. Monsieur de Kerdoret pria le pilote de le conduire aux briques destinées à l'instruction des mousses. Le batelier manœuvra en conséquence, et l'on se dirigea vers le fond de la rade. On eut bientôt rallié le brick. Pendant qu'on en faisait le tour, Monsieur de Kerdoret expliqua aux enfants le but de cette nouvelle école. Un marin ne se forme pas comme un soldat. Il faut, à bord des navires, non seulement des matelots pour exécuter les manœuvres, mais encore des hommes habitués à certains travaux et capables de diriger les autres, tels que des voiliers, des calfats, des charpentiers, des maîtres canonniers. Le brick des mousses fournit, en partie, ces hommes spéciaux qui sont répartis entre les équipages. Il est donc encore une pépinière très précieuse pour notre marine. Il était 5 heures de l'après-midi quand les jeunes visiteurs rentrèrent au port. Ils regagnèrent en toute hâte l'hôtel de Provence, désireux de faire part de leurs impressions à Madame de Kerdoret, pressés surtout de satisfaire leur appétit que l'excursion dans la rade avait plus que doublé. Il fut décidé à table qu'on partirait le lendemain matin pour le Conquet, où l'on devait prendre un logement pour plusieurs semaines. Les collégiens dormaient de ce sommeil profond que donnent, à 12 ans, le grand air et la fatigue, quand ils furent réveillés en sursaut par le bruit de la sonnette placée dans leur chambre. Ils se levèrent et firent leurs préparatifs de départ. 1 heure après, la famille de Kerdoret était sur la route du Conquet, admirant au milieu d'une riche verdure les villas dont les blanches murailles, éclairées par les premiers rayons du soleil, brillaient au loin, sur les coteaux et au fond des vallons. Le paysage changea bientôt. On s'arrêta devant un marais encombré d'énormes pièces de bois. Ce lieu, c'était Pinfel, l'endroit où commence la rivière qui coule à Brest. Ces pièces de bois enfoncées dans la vase servent à la construction des navires de l'État. On prétend qu'ainsi recouvertes chaque jour par la mer, elles peuvent se conserver plus d'un siècle. Elles acquièrent sous l'eau une dureté semblable à celle du fer. Après avoir traversé Saint-Renan, petite ville fort ancienne qui ne renferme absolument rien d'important, les voyageurs prirent le chemin qui conduit à la côte. À mesure qu'ils avançaient, l'aspect du pays devenait moins riant. La terre devenait moins bien cultivée. Un soleil ardent avait desséché la verdure. On n'apercevait plus aucun arbre, tant la tempête se déchaîne avec violence dans ces champs sans abri. Ils distinguaient enfin dans l'éloignement le phare Saint-Mathieu, voisin de l'abbaye en ruine qui porte ce nom. Le clocher de Locrist, svelte et dentelé comme presque tous ceux du Finistère, et des marais aux couleurs vives tranchant sur l'azur du ciel et de l'océan. Ils allaient arriver au Conquet. Une demi-heure après, la voiture s'arrêtait, en effet, devant une auberge de modeste apparence, mais d'une propreté irréprochable. La famille s'y établit pour tout le temps que devait durer son séjour. Le Conquet a beaucoup perdu de son importance d'autrefois. 4 ou 5 rues mal bâties, un port assez peu spacieux à l'entrée duquel on remarque une antique chapelle, c'est tout ce que les étrangers peuvent y visiter. Mais si l'on en croit les chroniques, et si l'on en juge par la quantité considérable de cailloux qu'on voit sur les champs, ce hameau ne serait qu'un débris d'une cité dont les maisons couvraient jadis une lieue carrée de terrain. Il fallut peu de temps aux voyageurs pour parcourir la triste et silencieuse bourgade. Après y avoir pris langue, ils s'acheminèrent vers le phare, en suivant les falaises à pic qui bordent le rivage. Les deux enfants éprouvèrent alors une de ces sensations confuses qu'on ne peut définir. Ce n'était plus de l'admiration, comme en présence de la rade de Brest, mais une sorte d'éblouissement. La vue de cette mer sans limite, racontant, selon l'expression de leur mère, les prodiges de la création, leur faisait mieux comprendre la toute-puissance divine. Combien ils se sentirent petits en face de l'infini! Ils aimaient à entendre le bruit sourd de la vague déferlant contre les récifs, pour venir ensuite expirer à leurs pieds. Leur regard se portait sur les îles Wesson et Benegest, sur l'île Molène, dont les habitants, comme on le leur avait dit, sont condamnés à vivre sur une terre ingrate, rendue stérile par l'âpreté du climat, et peuvent à peine fournir aux besoins de leur famille, en suppléant à l'agriculture par le commerce des algues et du goémon. « Mes enfants, dit Monsieur de Kerdoret, vous figurez-vous bien la position de ces infortunés? La plupart d'entre eux ne sortiront jamais de cette île étroite et ignoreront toujours les merveilles de notre belle France. Leurs yeux ne mesureront d'autre horizon que celui des flots qui les emprisonnent et battent éternellement leurs rochers. Pauvres gens, que leur existence est triste !» Puis, après un moment de réflexion, il ajouta « Ne les plaignons pas trop, cependant. Ils ne peuvent désirer ce dont ils n'ont pas l'idée. Leurs jours s'écoulent, calmes et purs, loin du tumulte des passions qui nous agitent sur le continent. Rien ne manquerait à leurs vœux si la nature moins avare leur donnait un peu du superflu dont abusent trop les hommes qui nagent dans l'opulence, car telle est leur misère, que l'État est obligé de leur envoyer des vivres à certaines époques de l'année. J'espère bien, mes jeunes amis, que vous n'oublierez pas ces insulaires. Leurs souvenirs, quand vous vous sentirez portés à vous plaindre de votre sort, vous empêchera de vous montrer injuste envers la Providence. Le bonheur et le malheur sont relatifs. Si nous regardons au-dessous de nous, nous ne nous trouverons jamais très malheureux. » En parlant ainsi, M. de Kerdoret accéléra la marche des enfants vers la tour qui sert de guide aux navigateurs. Des nuages s'amoncelaient dans le ciel et l'on pouvait craindre d'être surpris par l'orage. On arriva promptement aux ruines de cette abbaye où, pendant tant de siècles, de vertueux cénobites invoquèrent, pour le marin égaré dans l'abîme, le secours du Très-Haut. La poésie de cette solitude produisit sur les voyageurs une impression profonde. Ils s'imaginaient entendre ces voix graves, se mêlant aux mille voix de la tempête et de la mer, quand, au coucher du soleil, les religieux entonnaient l'office du soir. Comme elle devait être grande, pensait-il, la ferveur de ces hommes, isolés sur une pointe déserte, et rappelés sans cesse à la pensée de l'Éternel par la vue de l'immensité. Mais la journée s'avançait, ils furent forcés de mettre fin aux réflexions qui se présentaient en foule à leur esprit. Le phare Saint-Mathieu s'élève tout près de l'abbaye. 120 marches d'un demi-pied chacune conduisent à la lanterne. Les visiteurs y montèrent, après avoir remis au gardien la permission délivrée par le commissaire de marine du Conquet, et inscrit, selon la coutume, leur nom sur un registre. De cette hauteur, ils purent jouir d'un des plus beaux points de vue qu'on puisse imaginer. À droite se profilaient avec netteté les îles qu'ils avaient aperçues en venant. À gauche, c'était la rade de Brest, et par-delà, le rade Saint, si difficile pour les pilotes, puis l'entrée de la baie de Douarnenez. En face, l'océan diapré de voiles blanches. Pendant qu'ils considéraient avec ravissement ce magnifique tableau, le gardien, vieillard de plus de 60 ans, leur indiquait de la main la direction dans laquelle, tout enfant, il avait entendu retentir le canon anglais. Horace et Ludovic se plaisaient à l'écouter. Il l'excitait à rappeler les souvenirs de cette époque terrible où l'habitant de ces contrées, aujourd'hui si pacifiques, avait à craindre à tout moment une descente de l'ennemi. Sa parole, son geste, toute sa personne portait le cachet de l'homme accoutumé à vivre dans l'isolement le plus complet durant la moitié de l'année. Les deux enfants mouraient d'envie de l'interroger sur son passé. Ils devinaient que le vieux marin avait dû assister à plus d'un combat dont le récit eût eu pour eux un bien grand intérêt. Mais l'heure du dîner approchait, l'orage devenait de plus en plus menaçant. Monsieur de Kerdoret les invita à descendre. Au moment où ils sortaient du phare, un monsieur les rencontra. C'était un homme d'un âge avancé, dont la mise et la décoration annonçaient un officier en retraite. Il s'inclina très poliment devant les étrangers et, avec la familiarité du breton et du marin, il demanda aux enfants si leur visite au phare les avait satisfaits. La conversation s'engagea. Monsieur de Kerdoret apprit bientôt que Monsieur Le Troadec avait servi dans la marine jusqu'à l'âge de 60 ans, puis qu'il était venu habiter une petite maison entre le Conquet et le phare. En officier français, le vieux marin ajouta qu'il serait très heureux de piloter dans les environs pendant leur séjour sur la côte les deux petits garçons à qui il raconterait les différentes phases de sa carrière. Monsieur et Madame de Kerdoret acceptèrent avec reconnaissance une offre si agréable et faite de si bonne grâce. On était arrivé près du chemin qui menait à l'habitation de Monsieur Le Troadec. On se salua de part et d'autre et on se sépara.